Aujourd'hui, c'est le septième message sur les versets difficiles, les versets parfois qui nous confondent, qui nous troublent. Donc, le fond de cette série, c'est la question, peut-on perdre le salut? Dieu nous sauve, est-ce qu'on peut se trouver plus tard en enfer? Et la réponse est non. Mais parfois, quand on lit un verset, on dit, oh oui, je peux perdre mon salut. Et on s'inquiète. Donc, c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Soit le contexte, soit le verset même, où on a oublié que Dieu fait des promesses et que Dieu ne change jamais, etc. Donc, il y a diverses raisons. Et aujourd'hui, je réponds un peu dans ce sens que pour éviter une mauvaise application de la part de Dieu, il faut respecter la distinction entre les versets qui parlent des non-croyants et les versets qui parlent des croyants. Si on, en tant que croyant, on prend les versets qui est adressé aux non-croyants et on dit, ah, mais ça m'applique. On doit appliquer ça à ma propre vie. Évidemment, ça va nous faire du mal parce que on n'est pas non-croyant. Nous sommes croyants. Okay? Donc, c'est ça. Je parle de ça aujourd'hui. Et la chose, c'est que Dieu, à travers toute la Bible et même dans son être, Dieu fait toujours la distinction, la différence entre les croyants et les non-croyants. Alors, oui, mais le mauvais croyant, le croyant qui n'est pas correct, on va dire, eh bien, quelqu'un qui est né de nouveau est un enfant de Dieu. Et un mauvais croyant, c'est un mauvais croyant, mais c'est quand même un croyant, un enfant de Dieu. Donc, Dieu ne va pas prendre son enfant pour le mettre, si vous voulez, dans la poubelle éternelle. OK? Ça va pas se faire comme ça. Donc, pour traiter ce genre de problème, la Bible, à travers toute la Bible, mais beaucoup dans le Nouveau Testament, Dieu, il exhorte les chrétiens à agir dans le bien. Pourquoi il exhorte les chrétiens à agir dans le bien? Parce qu'ils ont besoin de cet encouragement. Parce que parfois, les chrétiens agissent dans la chair, comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Okay? Donc, il y a des exhortations pour que les chrétiens agissent bien, comme il faut en tant que croyants. Par contre, une personne qui n'est pas régénérée, une personne qui n'est pas sauvée, est toujours, jusqu'au moment de sa conversion, il est toujours non converti, il est toujours non croyant. Donc, même si un non-croyant est actif dans les choses religieuses, peut-être même pasteur ou prédicateur ou, je sais pas, prophète ou quelque chose, eh bien, cette personne reste non-croyant. Et en tant que non-croyant, cette personne demeure d'ailleurs sous la colère de Dieu. Ce n'est pas nos activités qui vont nous sauver. On peut aller à l'église, mais aller à l'église ne sauve personne. Écouter la parole de Dieu et se convertir à Jésus-Christ, c'est ça qui sauve. Okay? Donc, on arrive aujourd'hui, je vais dire que dans certains passages, un peu complexe, mais pas trop complexe, dans certains passages, Jésus parle à des foules qu'on peut dire mixtes. Dans la foule, le monde, là, il y a des croyants, par là, et il y a les non-croyants. Okay? Il y a toujours plus de non-croyants que de croyants. Okay? Donc, comme j'ai dit, ça peut nous troubler parce qu'il faut focaliser, mais il parle à qui là? Mais vous êtes capable de distinguer, et une fois qu'on a compris, il parle là aux croyants et il parle là aux non-croyants, il n'y a plus de confusion pour nous. Donc, si vous voulez chercher ça, on va voir dans Jean chapitre 8, et c'est la page 1067. Jean chapitre 8, là Jésus va parler à une foule mixte. Et nous voyons, on voit bien la différence entre ce qui dit aux croyants et ce qui dit aux non-croyants. Donc Jean chapitre 8, verset 30 au verset 32, Jésus parle aux croyants. Donc Jean écrit, verset 30, Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, c'est les croyants ou les non-croyants? Plusieurs crurent en lui. Donc, croyants, OK? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il parle aux croyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça vous fait du bien, ce que Jésus a dit? C'est bien. Ça, c'est réconfortant. C'est rassurant. Pourtant, il y a des autres gens dans la foule, donc il a dit ça aux croyants, mais d'autres gens dans la foule qui disent, « Oh, mais nous ne sommes pas des esclaves, on n'a pas besoin d'être libérés. » Et Jésus va leur dire, « Ah, ben, vous êtes pécheurs. Et en tant que pécheurs, vous êtes esclaves et vous avez besoin d'être libérés. » Mais ces gens-là vont, à la fin, donc on va lire les textes, mais à la fin, ils vont vouloir tuer Jésus. Donc, ils sont restés non-croyants. OK? Donc, on commence avec chapitre 8, verset 33. Donc, il... Alors, si on ne fait pas attention, on dit « il », c'est les gens croyants qui viennent à qui ils viennent de parler. Mais ce n'est pas le cas. « Il », c'est les non-croyants. Et donc, c'est les gens qui se rebellent contre Jésus. Donc, « ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'étions jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Maintenant, je vais sauter au verset 47. 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc, nous, on écoute la Bible, on lit la Bible, on apprécie la Bible. Il dit, mais vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, il ne dit pas ça aux croyants. Nous, on écoute la parole de Dieu parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Mais ceux qui, même s'ils lisent, j'ai connu un homme qui habitait juste une rue derrière nous et il m'a dit, Billy, je lis la Bible tous les jours. J'aime bien lire la Bible, c'est très intéressant, mais je ne crois pas. Il avait une petite saxo comme nous. Saxo, c'était le deux chevaux. Après, il était tué dans un accident de voiture. Hein? Connaissant la Bible bien et toujours étant non-croyant. C'est horrible. Là-dessous, verset 59, donc il y a toute une discussion qui tourne là. J'arrive au verset 59. Là-dessous, il... Donc, c'est toujours les non-croyants, ce n'est pas les croyants, attention. Ils prirent des pierres pour les jeter contre Jésus, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, je pense qu'on est tous capables de distinguer les paroles que Jésus donne. Il adresse aux croyants, et puis d'autres paroles, il dit aux non-croyants. Par contre, évidemment, quelqu'un qui écoutait quand il dit bah, « vous êtes esclaves du péché » aurait pu se libérer en se tournant vers Jésus comme les autres, en croyant à Jésus. Mais aussi longtemps qu'ils restent non-croyants, ils sont non-croyants, et donc ils sont encore perdus. Donc voilà, dans les foules autour de Jésus, il y avait, souvent, pas toujours, les croyants et les non-croyants. Et nous pouvons facilement, vous pouvez facilement distinguer entre ces deux groupes. Et en plus, vous devez le faire. C'est très important que vous faites cette distinction. OK, donc ça, c'est un peu introduction. Maintenant, je vais parler des faux prophètes. Donc, on est dans Matthieu chapitre 7. Et c'est les versets 15 à verset 23. Page 962. Page 962. Je vais lire et faire quelques petits commentaires. Matthieu chapitre 7 et verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils s'adressent à qui? Ils parlent aux croyants pour avertir contre les faux prophètes, n'est-ce pas? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. OK? Okay, donc les faux prophètes ou les faux enseignants, ou parfois dans la Bible il dit les faux docteurs, ce n'est pas les docteurs en médecine, mais les docteurs en enseignants, n'est-ce pas? Doctrine, docteur. Ceux qui sont faux, ils se trouvent dans le christianisme. Ils sont là dans le christianisme. Ils peuvent être gentils, ils peuvent avoir des belles paroles, mais il dit qu'ils viennent à nous comme les loups ravisseurs. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils font ravage de votre foi et de votre vie. Pourquoi? Parce qu'ils vous dévient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est bonne pour vous. Mais si vous écoutez un loup ravisseur, il vous dévie de la parole de Dieu pour suivre son chemin, ce qui vous égare de la volonté de Dieu. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Okay? C'est un peu comme dans la parabole qu'on a vue avant, les 10 vierges. On voit qu'il y a deux groupes. Il y a les 5 vierges sages, les 5 vierges folles. Okay? Donc ici, c'est les vrais prophètes. Donc le mot prophète, c'est le même mot que prédicateur. Et les faux prophètes. Il dit dans le verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Voilà. Donc verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Okay? Donc Jésus, il définit entre le mauvais arbre, le mauvais prophète, les faux prophètes, et le bon arbre, et les bons, donc les bons prophètes, les bons prédicateurs. Ces gens-là, ok, c'est pas obligatoirement des gens, parce qu'il y a plein de choses qui est littérature, ok. Donc littérature, c'est la même chose, ok. Si vous, par exemple, si vous nourrissez des livres apocryphes, ou parfois on les appelle deutéro-canoniques, c'est-à-dire ils ne sont pas du canon de la Bible, mais on les a ajoutés quand même. Ou si vous nourrissez des écrits des hérétiques ou faux chrétiens d'il y a 1500, 1700, 1800 ans, ou si vous écoutez des faux prédicateurs sur Internet, eh bien, vous faites du mal à votre foi. Pourquoi? Parce qu'ils vous nourrissent de poison. C'est tout simple. OK? Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, normalement, Seigneur, Seigneur, c'est les croyants. Mais pas tous qui disent Seigneur, Seigneur sont des croyants. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Que vous croyez en son Fils, n'est-ce pas? OK? Plusieurs me diront en ce jour-là, donc le jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça arrive, n'est-ce pas? Il y a plein de monde qui se trouve dans ce milieu-là. Alors je le dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est triste, hein? Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Et je mets en majuscule, vous devez-vous garder des faux prophètes. Okay? Jésus n'a pas dit, je vais vous garder des faux prophètes. On aimerait mieux qu'il aurait dit ça, que Jésus nous garde des faux prophètes. Mais non, il nous a responsabilisés, il nous a donné sa parole, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a enseigné la vérité. Et puis maintenant, gardez-vous des faux prophètes. C'est votre responsabilité. Dieu compte sur vous de faire ce que vous devez faire. Gardez-vous des faux prophètes. Vous êtes équipés. Alors, le nouveau croyant, on ne connaît pas tout, donc il faut grandir dans la parole, bien sûr. Mais il nous équipe, il nous donne son Saint-Esprit, j'ai déjà dit ça. L'apôtre Jean a dit, éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et là, il a dit ça déjà au premier siècle. Donc, depuis ce siècle-là, à travers tous les siècles, il y a plein de faux prophètes. Et que devons-nous faire? Nous devons nous garder des faux prophètes, des faux enseignants et les fausses doctrines. Jésus a dit ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » en parlant des faux prophètes. Il dit, quand il dit « Seigneur, Seigneur », ça veut dire qu'ils sont actifs dans la religion. Il dit « On a chassé les démons, on a prophétisé, on a fait des miracles. » Ce ne sont pas les gens qui viennent s'asseoir à l'église, ils ne font rien. Ça, c'est des gens actifs dans la religion. Okay? C'est les meneurs. Okay? Mais ces gens-là, ils n'ont pas le message de Dieu. Ils ont autre message, mais pas le message de l'Évangile. Ils ont peut-être de l'éloquence, ils ont peut-être facilité de parler, mais ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés du nouveau. Ils n'appartiennent pas à Christ. Et c'est pour cela qu'ils vont recevoir le même message que les cinq vierges folles. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'une fois qu'on connaît Dieu, on connaît pour l'éternité. Ils ne vous ont jamais connu. Ils étaient nés dans le péché, ils ont vécu dans le péché et ils restaient dans le péché jusqu'à ce qu'ils ont rencontré Dieu ce jour-là. Et ils sont toujours dans le péché. Ce qui intéresse aux faux prophètes, aux faux prédicateurs, ce sont le renommée, le pouvoir, je ne sais pas exactement pour chaque. Chacun, mais c'est ces domaines-là, c'est le renommée, le pouvoir, l'argent, plein de choses qui sont sur le niveau terrestre, les choses qui plaisent à la chair. Mais Jésus dit clairement que ces chefs religieux n'étaient jamais des croyants en Jésus-Christ. Ce n'étaient jamais des croyants en Jésus-Christ. Ils sont des loups, il dit, parmi les brebis. Qui sont les croyants, les brebis? Hein? Les brebis entendent ma voix. Et qui sont les loups? C'est les faux prophètes. C'est pour cela que Jésus dit à ces faiseurs de miracles qui égarent des gens de la volonté de Dieu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ça ne doit pas vous surprendre que la Bible parle des faux prophètes. La Bible parle des faux prophètes depuis, je ne sais pas, Exode, peut-être même Genèse, je ne sais pas. Mais à travers toute la Bible, on a des gens qui sont actifs dans la religion, mais qui ne connaissent pas Dieu, des faux prophètes. Dans le Nouveau Testament, ces faux prophètes, ils côtoient l'Évangile. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne croient pas dans l'Évangile. Parfois, ces gens se rendent compte de leur incrédulité et ils quittent le christianisme. Donc, parfois, ils restent parce qu'ils pensent qu'ils sont des chrétiens, mais non, ils ne croient pas en Jésus. Et parfois, ils disent, tiens, en fin de compte, ils ne croient pas. Et puis, ils vont partir. Jean les appelle les antichrists, ces gens-là qui nous ont quittés. Et Paul dit à Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, donc ça c'est les gens qui partent, pour s'attacher à des esprits séducteurs, donc j'en ai dit, et éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce n'est pas les doctrines de Dieu, ce n'est pas les choses que l'Esprit de Dieu enseigne. Ils abandonnent la foi biblique, mais ils n'abandonnent pas la religion. Il y a plein de gens dans les milieux de la religion qui sont là pour leurs raisons, mais ils ne servent pas Dieu. Donc, j'ai dit ça très globalement. Ça peut être l'hindouisme, le bouddhisme, le baptisme, le catholicisme, l'orthodoxie, je ne sais pas. L'histoire, n'importe. Il y a plein de monde qui s'occupent de la religion. On va faire ceci et cela, on va grimper jusqu'à Dieu.
comme le tour de Babel.
Ça va pas aider. Que faire? Chaque chrétien est responsable de connaître et de suivre la vérité que Dieu a révélée dans sa parole. Et puis, quand vous trouvez que quelqu'un ou quelque chose n'est pas fidèle à la vérité, il faut le rejeter. Il ne faut pas dire, oh, ben, je vais trouver, oh, regarde, il y a un livre là, tiens, je ne veux pas utiliser ça, il y a un livre. Ah, ben, j'ai trouvé une bonne chose écrite sur cette page, cette phrase-là, je veux garder cette phrase-là, mais je vais lire tout le livre de Sartre pour arriver à cette phrase-là. Ça ne marche pas. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Mettez une bonne distance entre vous et eux. Ne les croyez pas. Méfiez-vous de ceux qui prétendent faire des miracles et ceux qui dévient de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire en les écoutant. Parce que Jésus, au Matthieu 24, il a bien dit, ne pas les écouter, ne pas aller les voir. Va les chrétiens qui sont bien forts. Oh, je vais voir quand même. Mais qu'est-ce qui va arriver? Peut-être séduit. Pourquoi? Parce qu'on désobéit à Jésus. Jésus les a protégés. Écartez-vous de ça. Non, non, je suis plus fort que ça, même plus fort que Jésus. Je peux aller écouter. La suite n'est pas bonne. Soyons clairs, les faux prophètes, en dépit de leurs miracles, n'appartiennent pas à Dieu et n'ont jamais été sauvés. Je vous ai dit au début la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Et parfois, on lit quelque chose comme ça, on dit, oh, mais c'est un prédicateur, c'est Pasteur Billy ou quelque chose. Et regarde, il est perdu, il est non-croyant, il prêche contre l'évangile, il a perdu son salut. Non. Si une personne est à ce point-là, c'est qu'ils n'ont jamais été sauvés. Ils fonctionnaient dans la religion, mais ils n'étaient jamais à Dieu. Okay? Ils sont des gens perdus, religieux, mais toujours dans le péché et la mort spirituelle. Okay? Ça, c'est un sujet. Maintenant, sur la page, on va parler des croyants, des vrais croyants. Le vrai croyant reçoit le Saint-Esprit au moment qu'il invoque le salut en Jésus-Christ. Dès ce moment-là, le Saint-Esprit commence à produire des fruits à travers ce croyant. Et quel est le premier de ce fruit? L'amour. Quel est le commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Okay? Donc, Jésus dit dans Jean 13, 35, il dit, à ceux-ci tous, oh, ça c'est un grand mot là, tout le monde va reconnaître que vous êtes des disciples de Jésus comme moi. Quand vous avez l'amour, les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est ça que le Saint-Esprit fabrique en nous. C'est le fruit qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais le faux croyant est décrit comme un loup. Et le vrai croyant est décrit comme un disciple. Un disciple. Okay? Donc, on va tourner dans Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 9, verset 16. C'est le verset 21 qui trouble parfois. Jean chapitre 14, page 1076. Jean chapitre 14, on va commencer avec le verset 16 sur la page 1076. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure quelques jours avec vous. Non. Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les croyants, vous le connaissez À ce moment, il parle à ses disciples, mais ça concerne nous, les coins. Vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est rassurant. Hein? Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et qu'est-ce qu'il va faire pour venir à nous? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Donc là, il parle de la crucifixion et son ensevelissement. Mais vous, vous me verrez. Donc ça veut dire que Jésus va ressusciter. Car je vis, eh bien, vous vivrez aussi. Et là, il parle de la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, il dit qu'il envoie le Consolateur, mais il dit que moi, je serai en vous. Le Consolateur est là. Le Seigneur Jésus est là. Et Jésus est dans le Père. Donc, il parle ici de l'union spirituelle éternelle des croyants avec Dieu. C'est une union spirituelle éternelle. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc ça veut dire que la Trinité, dans la personne du Saint-Esprit, viennent habiter dans le croyant au moment de son salut. Cette écriture que je viens de lire est la promesse de la présence éternelle, parce que le Saint-Esprit est là éternellement, présence éternelle du Saint-Esprit dans le croyant et donc aussi le Père et le Fils. Celui qui croit en Jésus reçoit le Consolateur, le Saint-Esprit. Et au moment même de croire en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il entre dans le nouveau converti et agit désormais, à partir de ce moment-là, pour faire avancer les chrétiens sur le chemin du disciple. Donc, dans le verset 21, on va le relire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc, pour le résumer, « Qui m'aime, garde. Hein? »« Qui m'aime, respecte. » Jésus parle ici de l'amour du croyant pour son sauveur. Ce n'est pas l'amour de Dieu envers nous, là. C'est notre amour envers Dieu. Oh, on ne parle pas beaucoup de cela. On doit aimer Dieu. Jésus laisse entendre, malheureusement, qu'il y a des croyants qui ne l'aiment pas ou qui ne l'aiment que peu. Ce sont les enfants de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, le mauvais croyant, par exemple. Ce sont les enfants de Dieu qui se contentent d'avoir leur contrat assurance vie éternelle et continuent de vivre comme si le Seigneur n'avait aucun droit sur eux. C'est pas vrai, mais dans la pratique, ça se fait. Certes, le salut est un contrat que Dieu fait par promesse à celui qui croit en son Fils. Hein? C'est une grâce sans les œuvres, sans le mérite, pour celui qui croit en Jésus-Christ. Cependant, la volonté de Dieu, voilà ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour celui qui accepte le contrat, qui croit en Jésus-Christ, eh bien, c'est que celui-là devienne un disciple du Seigneur Jésus. Un disciple est, donc je pense le mot le plus adapté pour nous aujourd'hui, c'est le disciple, c'est un apprenti. Ok? L'apprentissage de Jésus. Voulez-vous devenir un vrai disciple de Jésus? Il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Il faut aimer Jésus plus que tout pour être un disciple véritable. Le disciple aime son maître. Comme une brebis, le disciple suit son maître là où veut aller. Pas le brebis, mais le maître, le berger. On va regarder dans 1 Jean chapitre 5. On va voir quelques versets là. 1 Jean chapitre 5, la page 1231. 1231. Donc on est dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, il affirme et réaffirme. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc la personne qui aime Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, né de Dieu, c'est-à-dire la personne qui aime Dieu aime aussi celui qui est un enfant de Dieu. Okay? Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. On va commencer à voir si je suis en train d'être aimable ou de aimer les frères et sœurs. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, ce verset dit qu'en aimant le Père Céleste, le chrétien met en pratique l'enseignement de Jésus. OK? Aimer, c'est agir pour le bien de l'autre. Et donc, la façon pour aimer Dieu, c'est d'obéir au commandement. Au commandement de vous aimer les uns les autres. OK? On va se rappeler que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand on aime les uns les autres, les gens disent « Ah, ça, c'est des chrétiens. » Mais s'il y a un chrétien qui n'aime pas les autres, on ne va pas dire qu'il est disciple. Même le monde sait qu'il n'est pas disciple de Jésus parce qu'il n'aime pas les chrétiens. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais? Parce que l'amour est agissant. L'amour fait quelque chose. Qu'est-ce que je fais pour Dieu et pour les autres chrétiens? Qu'est-ce que je fais pour Dieu et pour les autres chrétiens? Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc il dit là qu'il n'est pas pénible d'aimer les uns les autres. Il n'est pas dit pénible d'aimer les uns les autres quand on aime Dieu. Ça aide à aimer Dieu pour aimer les uns les autres. Donc, d'un côté, donc Romains chapitre 13, verset 9, d'un côté, la Bible dit « Toute la loi, tous les commandements se résument par le second grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà. Si vous gardez mes commandements pluriels, comment résumer ça? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et puis l'autre côté, Romains chapitre 13, verset 10, donc le verset suivant, l'amour ne fait point de mal au prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et quand tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien tu ne fais aucun mal aux autres personnes. C'est bien ça. Ça aide beaucoup. Verset 4, en Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Donc ça aide quand vous allez lire dans l'Apocalypse, celui qui vainc et qui triomphe et tout ça. Eh bien, qui est-ce? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Okay? Quand on est dans l'Apocalypse, et parfois on dit, ah, oh, mais est-ce que je vais perdre mon salut? C'est ça la solution. Celui qui vainc, ce n'est pas moi. C'est Jésus. Il a déjà vaincu sur la croix. L'amour pour Dieu et l'amour pour votre prochain distingue entre ce qui est saint et ce qui est profane. Entre ce qui d'un côté est juste et droit et de l'autre côté ce qui est mal et du monde. On ne peut pas vraiment aimer quelqu'un en pratiquant le mal ou en faisant les choses du monde. Okay? Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, avec Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, donc c'est possible, autrement il ne l'aurait pas dit. Okay? eh bien, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et ça, c'est le verset qui trouble, parce que, oh, est-ce que j'ai perdu mon salut parce que j'ai fait un péché? Eh bien, non. Mais il dit que vous ne pratiquez pas. Vous n'êtes pas en train de pratiquer votre foi. Okay? Le verset, comme beaucoup d'autres versets, et ça suggère dans un sens qu'on pourrait perdre son salut, mais non, il parle de la pratique de la vérité. Un chrétien, quand il marche avec Dieu, il pratique la vérité. Eh bien, quand il ne marche pas avec Dieu, il pratique les désirs de la chair. Ça, c'est Galates chapitre 5, verset 20, plus ou moins. OK? Donc, oui, malheureusement, il y a des croyants qui ne pratiquent pas la foi qu'ils professent. Oui, je suis croyant, mais bon, j'ai autre chose à faire. OK? Un tel chrétien manque d'amour envers Dieu et évidemment envers les autres chrétiens. C'est pour cela qu'il y a des exhortations aux chrétiens, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai mis une autre ici, qui vient de 3 Jean, verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Il parle aux chrétiens, bien-aimé. N'imite pas le mal. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il y en a qui imitent le mal. Et il veut plus qu'il fasse ça. Donc, mais imiter le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Il dit, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, pourquoi les chrétiens vont faire des choses que ceux qui ne connaissent pas font? Les non-chrétiens font des choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les chrétiens font ces choses-là? On ne devrait pas. On ne devrait pas imiter le mal. C'est ça qu'il dit. Et ça ne veut pas dire que voilà, j'ai fait un péché, donc je vais en enfer. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ils font le mal et ils vont en enfer. Pourquoi celui qui connaît Dieu, eh bien, il va faire ces choses-là? Parce que ça, c'est revenu dans la poubelle, faire les choses qu'on a confessées, qu'on a voulu être pardonné pour ces choses-là. Donc, c'est dommage quand il y a des chrétiens qui ne font pas de distinction entre les choses de Dieu et les choses du monde. On vous encourage à faire cette distinction. Le croyant qui aime Dieu, et donc qui aime les autres enfants de Dieu, mais c'est celui-là qui est un disciple. OK? On doit être disciple. Et ça dit que oui, parfois, on est des chrétiens, mais pas des disciples. Mais Dieu veut qu'on soit des disciples. Et il nous explique ces choses-là. Donc, je résume rapidement avec 4 pensées. Dieu divise l'humanité dans 2 groupes. Le fait de croire en Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection fait toute la différence. Vous êtes dans un groupe ou l'autre groupe parce que vous croyez à l'Évangile ou que vous ne croyez pas à l'Évangile. Et Dieu sauve et délivre tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Okay? Donc ça, c'est un groupe et l'autre groupe. Pour éviter une mauvaise application de la parole de Dieu, il faut respecter cette distinction. Il parle aux croyants ou il parle aux non-croyants. Les pratiques religieuses, c'est une troisième chose, les pratiques religieuses sans la foi en Jésus-Christ n'ont aucune valeur. Oui, ça peut aider les gens physiques, dans le sens de donner l'argent, donner logement, quelque chose comme ça. Il y a une utilité sur le niveau humain. Okay? Mais vis-à-vis de Dieu, il n'y a aucune valeur aux pratiques religieuses sans la foi en Jésus-Christ. C'est normal parce que les œuvres ne sauvent pas. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Puis, quatrième point, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La volonté de Dieu, c'est que les croyants deviennent des véritables disciples de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut de nous. Sans donner les détails. Je n'ai pas donné les détails. Mais Dieu n'a pas donné les détails non plus. Il a dit, soyez disciples véritablement. OK? Pour devenir un disciple, il faut connaître l'enseignement de Dieu. Donc, il faut lire la Bible. Et donc, connaissant l'enseignement de Dieu, il faut aimer Dieu en appliquant sa parole. qu'est-ce que Dieu dit dans la parole. Et avec tout ça, il faut aimer les uns les autres. Il faut aimer les uns les autres. Si vous demeurez, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment mes disciples. Je le souhaite pour chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine.